Oui, bonjour, vous êtes bien sur le 91.00 de FM Plus à Montpellier. Et bien, je vous retrouve après quelques petites semaines d'arrêt. Je voulais vous souhaiter une bonne année, avec tout un tas de belles choses. Alors effectivement, ces belles choses d'entrée sont ternies à cause de ce qui s'est passé du côté de Charlie. On en est tous époustouflés, on en a tous les jambes coupées. Et on n'a qu'une seule envie, c'est de continuer. Et ben, on dira pour les radios libres, mais aussi pour la liberté d'expression et que toutes ces formes de fanatisme disparaissent. Alors aujourd'hui, bien une émission toute particulière puisque nous allons parler d'un Chacona, votre émission de musique classique. Nous allons parler d'un opéra qui est encore à l'affiche de l'opéra Comédie, c'est-à-dire de Idoménée, roi de Crète. C'est un opéra de Mozart et donc il a déjà eu lieu en décembre, au mois de décembre, le 26, le 28 et puis petit à petit au cours du mois de janvier, le 2, le 4, le 6 et le jeudi 8, ça sera la dernière. Et j'ai eu la chance de rencontrer Jean-Yves Courrèges-Longue, qui est le metteur en scène de cet opéra, et nous avons eu une longue discussion, et cette longue discussion, vous allez maintenant l'écouter. Donc cette émission va être consacrée à une petite explication de qu'est-ce que c'est que cet Idoménée. Alors Idoménée a été créé en 1791 par Mozart. Il avait 25 ans, il pouvait s'échapper de Salzbourg où justement son père le tenait très fort. Et c'est l'un des thèmes de cet Idoménée, c'est justement, on va le voir dans l'explication dans le résumé, ce que c'était la relation entre le père et le fils. Donc il peut s'échapper de Salzbourg, il était aussi tenu par l'archevêque Colloredo qui était son patron, et donc il va du côté de Munich, et là il écrit un de ses premiers grands opéras. Et il faut savoir qu'à cette époque-là il restait qu'une dizaine d'années à Mozart, de vivre pour Mozart. Alors donc cet opéra, il a été créé avec un livret qui avait déjà été utilisé par un compositeur français qui s'appelait André Campra. Et là, Mozart en a écrit tout à fait autre chose. C'est Varesco, qui était un abbé, qui a été chargé d'adapter le livret. Et puis, donc, il y a peu de chanteurs dans cet opéra. Et l'histoire est assez simple. C'est une princesse troyenne, fille du roi Priam, qui est captive en Crète. Elle éprouve un conflit contre la haine, tiens donc. Et elle en particulier, elle devrait être très violente envers ceux qui ont tué son père. Et pourtant, elle adore Idamante. Alors Idamante, c'est le fils du roi de Crète. C'est le fils d'Idoménée. Et le problème, c'est que Idoménée, qui était parti du côté de Troie, quand il y a eu une grosse tempête, il a dit que la première personne qu'il rencontrerait sur le rivage, il la sacrifierait. Et vous comprenez qui ça va être. Ça va être le fiston, ça va être son fils. Donc grand duel, grand problème, il ne veut pas le faire, il y a des tempêtes, etc. etc. Voilà. Alors pour faire cet opéra à Montpellier, on l'a déjà eu un certain nombre de fois du côté de Montpellier, mais pour le faire à Montpellier, il y a un metteur en scène. Alors je dis nouveau, mais c'est pas nouveau, monsieur Jean-Yves Courrèges-Longue, qui a déjà fait à Montpellier un certain nombre d'opéras. Il a déjà participé à d'autres opéras ailleurs qu'à Montpellier, mais en particulier à Montpellier, il a travaillé sur Electra, qu'il a donné il y a 2 ans, en 2012, oui. Et également, il a fait Péléas et Mélisande en 2008. Voilà, donc j'ai eu la chance de le rencontrer. Vous allez écouter cette interview. Cette interview a été réalisée à l'extérieur de l'Opéra de Montpellier. Donc vous entendrez le fameux guitariste qui est toujours devant l'Opéra de Comédie. Donc vous l'entendrez en bruit de fond et vous entendrez M. Jean-Yves Courrèges-Longue. Alors avant de parler avec M. Courrèges-Longue, vous allez tout simplement écouter, et on va l'écouter tout au long de cette émission, l'enregistrement de cet Idoménée qui a été réalisé par René Jacobs. Alors certains vont me dire que René Jacobs, il y en a assez, je sais, je fais beaucoup écouter, mais c'est quelqu'un d'assez extraordinaire. Donc voici cet Idoménée dans l'enregistrement de René Jacobs, et là vous allez tout simplement entendre l'ouverture, et ensuite monsieur Courrèges-Longue qui nous dit tout ce qu'il pense de bien de cet opéra.
Thank you. À travers l'opéra, à l'amour d'autrui, généreux, pur, sans arrière-pensée, sans contrepartie, le don de soi. Et voilà, je pense que c'est vraiment ça le thème du Doménée. Et ça, c'est apporté par Elia, qui est déjà évidemment totalement Pamina, la Pamina qu'on va retrouver de la Flûte Enchantée. Et on retrouve les trois personnages principaux. Elia étant Pamina, Idamante étant Tamino, bien que ce n'est pas la même tessiture pour le rôle, mais le personnage, et Idoménée étant quelque part Zarastro, et Electra se retrouve comme la reine de la nuit, avec des airs de furie, et voilà, donc je pense que c'est vraiment le prototype de la flûte.
Alors comment faire avec un tel opéra, parce qu'on sait que bon, il y a des récitatifs par endroits qui sont longs, souvent on les coupe. Et sachant que, effectivement, comme vous le disiez, il y a beaucoup de récitatifs qui sont absolument extraordinaires. Alors, comment avez-vous joué avec ces récitatifs ?
On a essayé d'en couper le moins possible. Mais bon, Mozart avait déjà fait beaucoup de coupes à la création à Munich, entre la générale et la première. Il a énormément coupé, jusqu'à même couper l'air final d'Electra, qui est absolument sublime et que, bien sûr, on rétablit. Mais il avait déjà un sens du théâtre extraordinaire qui a fait qu'il a fait des coupes décisives. Dans les récits, mais également dans les airs. Il y a deux airs qui ont été coupés. On a essayé de les préserver la plupart, mais en respectant les coupes de Mozart. Donc, parce que certains sont... Le texte est vraiment très fort, et surtout une inventivité, une théâtralité extraordinaire qui fait que l'on passe du récitatif secco, c'est-à-dire accompagné juste de clavecin, à par moments des accents d'orchestre d'une violence incroyable qui racontent vraiment tous les troubles d'un jeune homme, c'est-à-dire avec des accès soudains d'une idée à l'autre, d'un sentiment extrême à un autre sentiment, comme ça en quelques secondes.
Alors comment faire justement, quand on est metteur en scène, pour arriver à articuler, bien articuler les récitatifs, où en général il se passe quelque chose, c'est une action, même si pour souvent, comment dirais-je, celui qui écoute, c'est pas toujours évident, et puis l'air où c'est des grands moments où ça stagne, il se passe des choses. Comment le metteur en scène arrive à animer tout ça et à articuler toutes ces différentes phases?
Pour moi, le théâtre, n'est qu'un seul mouvement. C'est-à-dire que du début du lever du rideau jusqu'à la fin, il n'y a qu'un seul mouvement. Là, c'est ce que j'ai essayé de faire dans l'Idoménée, c'est-à-dire que dès l'ouverture, il y a un mouvement, c'est-à-dire que le rideau de fer descend jusqu'à la fin. Et c'est-à-dire que comment gérer ces mouvements, c'est-à-dire que l'aria n'est pas forcément un moment d'arrêt comme il peut l'être parfois. Il peut être aussi quelque chose de très actif, notamment dans Idoménée et souvent chez Mozart également. C'est pas comme dans le bel canto où tout s'arrête et on a une cavatine sublime et l'action s'arrête. Non, là le théâtre existe tout le temps et les récitatifs notamment sont là où les personnages se rencontrent, s'opposent et où vraiment le théâtre se naît. Donc après, trouver la continuité. Et surtout, ce qui est étonnant, c'est que dans le premier acte, par exemple, donc Mozart à 25 ans, enchaîne les scènes à une vitesse incroyable, en faisant des ponts entre un récitatif et un aria, mais très brusque comme ça, qui sont d'une grande, 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 grande modernité. On n'est pas vraiment dans le... Il casse le côté des numéros, c'est-à-dire air, récitatif, marche, oui. Introduction. La plupart du temps, il enchaîne ça avec un sens de la dramaturgie absolument incroyable.
Alors il y a certains chefs d'orchestre, René Jacobs pour ne pas le nommer, qui eux enchaînent totalement récitatif air. C'est-à-dire que le récitatif qu'il faut voir au piano ou au clavecin, peu importe, c'est pas ça le problème. Mais normalement, quand on va à l'opéra, il y a le claveciniste qui est dans son coin, le continuiste qui fait son morceau, le chef s'assied, puis il se lève, et il y a 10 secondes d'écart entre les deux. Alors est-ce que vous avez réussi, comment vous gérez ce passage entre les deux, qui n'est pas facile, et quand on écoute Jacobs et qu'on voit comment ils enchaînent maintenant, c'est absolument extraordinaire, il y a un souffle évident.
Bien sûr, en tout cas, je peux vous dire que la version... Jacobs m'a beaucoup porté là pendant la préparation, vraiment c'est magnifique. Écoutez, avec Sébastien Roulant, le chef d'orchestre, on est aussi dans ce souci de théâtralité et donc les transitions, c'est toujours primordial. C'est la base du théâtre, c'est la base, comme au cinéma, à montage, on passe d'un sentiment à un autre, d'une forme à une autre, tout, elles ont du sens. C'est-à-dire, effectivement, on essaie de qu'il n'y ait pas d'arrêt. Ou s'il y a un arrêt, il est vraiment marqué comme étant un arrêt. C'est le même discours. Et donc on essaie avec les chanteurs vraiment de faire que le texte ne soit pas juste dit, mais qu'il se magnifiquement écrit avec des appoggiatures, des ornements, mais qu'il ait un sens tout le temps et le sens de la scène même du théâtre. Encore une fois, chez Idoménée, il y a vraiment, les récitatifs sont absolument extraordinaires. Et on est beaucoup plus inventifs et vivants, je pense, que dans la Clémence, qui sont uniquement séco. Donc voilà, oui, ce souci, c'est toujours, toujours d'avancer dans l'histoire de jeu. Il y a peut-être quelques moments comme ça où tout s'arrête, des moments magiques, mais qui sont voulus par Mozart, comme la voix, où tout s'arrête sur le plateau, et c'est juste cette voix de basse avec... en coulisses comme le commandateur, et là sur scène je pense qu'il ne doit rien se passer, peut-être juste la lumière bouge, mais voilà. Donc en tout cas, moi, tout mon souci de mise en scène est parti de la partition, c'est-à-dire que je ne sais pas, à partir du texte du livret de Varesco et de la partition de Mozart, par-dessus de bâtir une autre histoire. J'essaie de raconter cette histoire et de la raconter avec le matériel qu'ils ont donné, c'est-à-dire la partition. Et le génie de Mozart, son lien entre texte et musique. Donc j'ai essayé, j'avoue, assez loin, beaucoup plus que d'autres fois, d'essayer de montrer la musique. Alors c'est un pari un peu difficile, parce qu'il ne faut pas tomber dans la redondance, dans l'illustration totale. Mais je pense vraiment, j'ai ce sentiment très fort, que dans la musique de Mozart, tout est dit, même ce que l'on ne sait pas, ce qui n'est pas dit encore, et on l'entend. Donc tout sur le plateau, que ce soit les mouvements, la lumière, les mouvements du décor, sont basés sur la musique. Je suis curieux de voir le résultat, je le verrai tout à l'heure, puisque nous allons avoir le général piano. Je vais voir si ce pari tient le coup jusqu'au bout, ou s'il va falloir que je retravaille dessus, et que peut-être... Voilà, donc, mais voilà, ça a été le... Et le fil, puisque vous parliez du fil entre récitatif et musique, voilà, c'est la partition avec ses brisures. Quand il y a une brisure dans la musique, aussi, elle a du sens pour moi, donc scéniquement, elle est représentée. Et la lumière, parfois peut-être très brutale, arrivée d'un coup, au contraire, très lentement, en fonction de la partition.
Alors tout ce qui est décor, la scénographie, vous l'avez pensé comment ? Un décor unique qui bouge ou des choses qui arrivent différentes par moment, des choses qui s'accumulent ? Comment avez-vous fait ?
Alors bien sûr...
En gros, on ne va pas tout dévoiler.
Oui, on ne va pas tout dévoiler. Mais bon, la première idée, bon, comme il dominait dès le début de l'ouverture, on entend la mer... On entend les passions qui s'agitent, le vent, la tempête, dès les premières notes, le mouvement qui va nous amener jusqu'à la fin. Donc, la première idée était de faire quelque chose d'assez baroque, c'est-à-dire que le décor devait bouger tout le temps. Or, bon, c'est un secret pour personne, l'Opéra de Montpellier vit une crise...
Des drames, on dira.
Un drame également, mais une grande crise économique. Donc le budget était fortement restreint. Donc il a fallu fortement restreindre nos velléités de décor.
Avoir des idées.
Donc c'est ce qu'on dit généralement. Ben quand on n'a pas d'argent, il faut être plus inventif. Donc c'est ce que nous avons essayé de faire.
C'est ce qu'on a essayé de faire.
Donc nous sommes avec mon scénographe Mathieu Laurie Dupuis, avec lequel j'ai fait Péléas déjà et Electra. Tout le travail a été de trouver un espace qui puisse raconter avant tout, pour moi, un des thèmes essentiels d'Idoménée, c'est-à-dire que l'isolement. C'est-à-dire que tous les personnages de l'opéra sont refermés sur eux-mêmes de par l'interaction qu'ils ont avec les autres personnages pour différentes raisons, hein, les uns aux autres.
Mais les rapports sont compliqués déjà de base.
Et politiques et sentimentaux. Et ce qui fait que chaque personnage est enfermé dans sa solitude, essaie d'en sortir, mais cela ne pourra se faire qu'au troisième acte.
Vous venez donc d'écouter le premier air de Ilia dans cet Idoménée roi de Crète de Mozart, et l'enregistrement que vous écoutez, c'est celui de René Jacobs qu'il a réalisé avec l'orchestre baroque de Fribourg, le chœur de l'Arias, mais vous l'avez pas entendu encore, et Ilia, c'était Sunny Him, la merveilleuse soprano que René Jacobs a choisi. Il faut savoir que cet enregistrement a été réalisé par René Jacobs, donc pour la firme Harmonia Mundi. Et il a réalisé cet enregistrement en 2009, et vous pouvez retrouver beaucoup d'enregistrements. D'ailleurs, si vous aimez René Jacobs, moi vous savez que je suis un inconditionnel, ils viennent de mettre en boîte eh bien, l'enlèvement au sérail de Mozart, que vous pourrez voir dans quelques temps, je suppose. Alors là, je vous rappelle que vous êtes toujours sur FM Plus à Montpellier ou Alliance Plus 103.1 à Nîmes, et que nous sommes en train d'écouter eh bien, l'interview de Jean-Yves Courgelon, qui est le metteur en scène de cet opéra de Mozart. Et là, nous allons continuer l'enregistrement et l'enregistrement de l'interview. Et après, vous pourrez écouter encore deux autres extraits de cet opéra de Mozart. Et là, nous passerons au deuxième acte. Et d'ailleurs, dans ce deuxième acte, vous écouterez le fameux air, l'air absolument extraordinaire du ténor. C'est le papa et qui va chanter Fuor del Mar. C'est là où il est très en colère d'être obligé de sacrifier son fils.
Les personnages, ils évoluent assez peu, je trouve, dans cet opéra. Ils sont un peu figés, des fois. Enfin, figés, je ne sais pas ce qu'il faut dire figés, mais ils sont un peu coincés.
Idoménée, surtout. Idoménée, ouais. Alors qu'il donne le titre à l'opéra, c'est le seul personnage qui est totalement passif de l'œuvre. Pendant...
Ah, vous dites passif, vous.
Totalement impuissant.
Oui, c'est ça, oui, absolument. Oui,
impuissant,
oui,
impuissant.
Je vois à votre regard le mot.
Mais c'est-à-dire que quand il essaie de faire une action, c'est-à-dire d'envoyer Idamante en dehors de la Crète pour sauver son fils, c'est pas possible, parce qu'une tempête vient le bloquer. Donc il n'a aucune action, et surtout, il ne peut pas dire, il est dans le non-dit pendant deux actes, c'est uniquement à la fin du deuxième acte qu'il avoue devoir sacrifier Idamante. Donc il est pendant deux actes, il est, à part heureusement qu'il y a Arbatch, le fidèle confident pour lequel il peut enfin verbaliser, comme on dirait de nos jours, sinon il ne peut ni parler ni agir. Idamante non plus, puisqu'il est dans ce passage, il doit devenir le père, or le père est mort, donc il peut devenir le fils, puis après on apprend que le père n'est pas mort, donc il redevient le fils, puis après bon, il doit être tué pour faire vivre son père. Enfin bon, c'est assez étonnant, c'est qu'à la fin qu'il peut. Mais cela uniquement grâce à Ilia, qui est le seul personnage actif de l'œuvre, qui est vraiment la Pamina qu'on va retrouver dans la flûte. C'est-à-dire c'est la seule qui a cette volonté qui est forte, courageuse, d'une autre culture, c'est important, je pense. Hein, elle est troyenne, donc on va dire orientale par rapport aux Grecs. Et c'est uniquement elle, par sa force et sa conviction et le fait de bousculer les tabous, et en tout cas pour elle, d'aimer le fils d'un des assassins de ses parents, de passer outre cela, que l'action peut se débloquer.
Et alors au point de vue costume, il y a un travail particulier sur les costumes pour essayer de faire apparaître leurs différences, ou c'est, je sais pas, ou tout à fait autre chose?
Non, alors déjà, bon, nous ne sommes pas après la guerre de Troie.
D'accord.
Cela se passe au siècle dernier, ce qui déjà a du passé pour nous.
Vous l'avez situé au siècle dernier, vous l'avez transposé comme...
Oui, c'est-à-dire au XXe siècle.
D'accord,
et
oui.
le 20e... oui, de temps en temps, il faut se rappeler.
Oui.
c'est-à-dire qu'après, bon, le XXe siècle a vu beaucoup de conflits, première guerre mondiale, seconde guerre mondiale. Après, il y a eu tous ces conflits ethniques qu'il y a eu notamment dans les Balkans, les Serbo-Croates. Il y a aussi, malheureusement, toujours un conflit au Moyen-Orient, entre Israël et la Palestine. Donc voilà, on est dans une époque moderne, on va dire moderne. C'est-à-dire que les costumes sont contemporains, légèrement datés, un peu, disons plutôt 40. Mais voilà, l'action se situe après un long conflit avec les gens qui sont un peu déboussolés après cette longue période de guerre où on doit réapprendre à faire la paix, à vivre ensemble. Voilà, c'est un peu l'idée.
Alors on sait aussi pour les chœurs que Mozart n'aimait pas trop les chœurs, à part peut-être la flûte ou Tamos, où là il y a quand même des chœurs. Bon, là il y en a un peu, mais c'est très léger. Alors comment les avez-vous traités?
Dans Idoménée, ils ont une fonction bien particulière, c'est-à-dire ils représentent le peuple.
Le peuple, oui.
Donc ils sont cette présence qui commence par la joie, c'est-à-dire c'est la joie des prisonniers troyens qui sont libérés. À la fin du premier acte, c'est la joie du peuple de Crète, du retour d'Idoménée, que moi j'ai traité un peu comme un contrepoint, c'est-à-dire en mettant Idamante, qui est détruit par le fait d'être rejeté par son père, en contrepoint à cette joie du peuple autour de lui. Et puis après, surtout, il a cette force du grand lamento quand Idoménée annonce qu'il doit sacrifier son fils. Il y a un des plus beaux moments pour la partie chorale qui nous rappelle les grandes messes liturgiques, les messes en nuit et le requiem. Et donc c'est cette présence comme ça, c'est-à-dire que l'erreur éthique et presque politique de Idoménée, de vouloir sacrifier quelqu'un, entraîne toute la communauté avec lui. C'est-à-dire aussi, c'est une réflexion sur le pouvoir, que chaque acte que nous faisons a des conséquences, et notamment Idoménée, par son erreur, amène tout son peuple, toute la communauté,
dans le chaos.
Dans le chaos, et donc le peuple aussi, dans son désarroi, fait appel au grand prêtre, fait pression pour le grand prêtre pour qu'Idoménée intervienne et fasse en fait le sacrifice qui, dans ces civilisations archaïques, était nécessaire pour que la pluie revienne ou au contraire que le beau temps revienne, et voilà.
Alors on sait que cet opéra fait partie des opéras où il y a finalement un peu de chanteurs, il y en a 5 je crois, hein, c'est ça?
Oui,
il y a 5, puis peut-être dans les chœurs, peut-être quelques solistes à bassin. Alors est-ce que ça demande un travail particulier? Alors on peut imaginer par rapport à Electra, effectivement, où à la limite il n'y a qu'un chanteur, ou une chanteuse peut-être. Mais bon, est-ce que ça demande un travail particulier? Parce qu'en plus là aussi, bon, dans Electra, le problème c'est la masse, la monstruosité de ce qu'elle dit et de l'orchestre. Bon, là c'est plutôt la virtuosité, donc on peut pas mettre des chanteurs sur la tête ou des choses comme ça, si, quand c'est très virtuose. Bien que, il n'y a pas très longtemps, j'ai vu ça, je ne sais plus sur quel opéra.
Oh, mais, oui, maintenant, dans la jeune génération, il y a des chanteurs qui peuvent, peuvent chanter
la tête en bas.
Non, dans Idoménée, il y a pas tellement. L'histoire n'appelle pas tellement ça. Par contre, ce qui est très important dans Idoménée, c'est la jeunesse des désirs de ces personnages, évidemment. Il y a, ce sont des jeunes, il ne faut pas l'oublier. Et même Electra n'est pas si vieille, hein, je veux dire, elle a peut-être 30 ans, hein, je veux dire, ce qui n'est pas vieux. Idoménée a peut-être 40, 45 ans,
oui,
je veux dire,
ça,
voilà, il n'y a pas de vieillard sur scène. Et donc c'est la jeunesse des corps. D'autant plus que nous avons une distribution extrêmement jeune.
Oui, c'est ça.
C'est-à-dire que nous avons certains chanteurs qui. La plupart des chanteurs, c'est une prise de rôle. Donc c'est à la fois troublant de les voir s'approprier ce rôle, de les voir le découvrir. Et ensemble, c'est-à-dire avec les indications de Sébastien Roulan, le chef d'orchestre, et mes indications scéniques, de les voir petit à petit créer ce personnage et que leur corps incarne à la fois. C'est-à-dire que le corps est nécessaire pour chanter, hein, puisque c'est un instrument, c'est lui qui résonne, et c'est ce corps aussi qui joue. Donc c'est ce que nous avons essayé, c'est ce travail. Alors, travailler sur le corps, c'est pas forcément bouger tout le temps. Hein. Parfois, c'est pouvoir être immobile, mais la grande difficulté, c'est d'être immobile sur scène sans que ça soit quelqu'un qui attend. Au contraire, trouver comment, en étant immobile, on est plein de tensions, on est traversé par les émotions.
Du corps,
voilà, donc ça a été un peu l'axe de ce travail. Donc certains ont moins d'expérience que d'autres, c'est plus difficile, notamment par exemple, pas forcément de bouger d'ailleurs, mais plutôt de ne pas bouger.
Ah oui.
Ça semble assez difficile, donc, puisqu'il faut trouver ce mélange entre un réalisme. Je parle de réalisme et pas de naturalisme, mais un réalisme psychologique. Et en même temps, le fait que nous ne sommes pas dans la vraie vie. Nous faisons du théâtre. Et d'autant plus, nous sommes à l'opéra.
Le problème d'opéra qui est chanté par définition.
Voilà. Il faut trouver cette vision stylisée de la vie qui soit par moments très proche de nous et par moments qui, par sa stylisation, va au-delà de nous et nous parle encore plus de par le fait de son artificialité.
Bien alors... Après avoir fait cette idoménée, donc il doit être donné 5 ou 6 fois, je crois, ou quelque chose comme ça. Ouais, c'est ça. Il est prévu d'être redonné ailleurs, celui-là, ou pas ?
Écoutez, pas pour l'instant.
Pas pour l'instant.
Je l'espère.
Oui, voilà. Et donc, Yves Courrèges-Long, après, qu'est-ce qu'il a à faire comme travail de metteur en scène ou d'assistant, pourquoi pas ?
Il y a des projets, mais je ne peux pas en parler encore.
On ne peut pas en parler encore ?
Non,
je ne parle pas forcément de Montpellier, on est bien d'accord.
Non. Il y a peut-être un gros projet dans 2 ans, très gros projet. Voilà,
d'accord.
Mais je
ne
peux pas en parler.
Non c'è sa vita.
L'idée de Valérie Chevalier aussi, c'est que le spectacle tourne. Parce que c'est parfois, c'est quand, évident, quand vous imaginez qu'Electra, nous avons travaillé, toute cette somme de travail.
Combien vous avez travaillé pour Electra?
Deux représentations.
Combien de temps vous avez travaillé à peu près?
Très peu, parce que 20 jours, ce qui est très peu. Hein,
oui.
20 jours, c'est vraiment très peu. Et pour Idoménée aussi, un peu, quelques jours de plus, on va dire, nous avons 4 semaines, ce qui est très très peu. Parce que, encore une fois, hein, vous savez, c'est l'argent, le nerf de la guerre.
Bien sûr.
Et donc c'est les répétitions coûtent cher également.
Bien sûr.
Donc voilà.
Écoutez, pour Electra, vous avez eu comme spectateur Patrice Echero, c'est déjà pas mal.
Et Bob Wilson.
Ah, ça je savais pas, mais Patrice Echero, je l'ai vu.
La
donc,
première, donc, voilà. et Patrice Echero était là à la deuxième.
Oui, parce qu'on sait qu'en plus il a fait
il allait monter sa fête. Voilà. Donc c'était. Je dois dire que pour moi, c'est avoir ces deux très grands metteurs en scène. Ce sont les deux grands metteurs en scène qui ont marqué profondément ma vie.
En plus d'un Wagner, puisqu'on parlait de Wagner.
Donc oui, les deux ont monté Wagner. Avec des moyens, avec des esthétiques complètement différentes.
Oui.
Mais je suis à la fois traversé par ces deux aspects de l'œuvre, ce côté très incarné de Chéreau, cette intelligence et le côté beaucoup plus formel mais abstrait mais transcendant, je pense, du travail de Bob Wilson, et notamment du travail sur la lumière.
Oui,
pour moi, la lumière est un acteur important de l'œuvre. La lumière n'est pas là uniquement pour éclairer les chanteurs et le décor, ou pour faire joli, mais elle a une fonction narrative. Notamment, j'ai fait des études de cinéma, donc pour moi, la lumière a un peu la fonction du montage.
Du montage.
Du montage au cinéma. C'est-à-dire que j'aime bien, d'une section à l'autre, parfois totalement changer, comme si on changeait l'angle de caméra. La lumière change brutalement et apporte une autre ambiance. C'est-à-dire que, par exemple, un personnage rentre, Idoménée rentre sur scène, et au moment où il rentre, c'est son point de vue que l'on voit. C'est comme si la caméra, tout d'un coup, voyait son point de vue. Donc la lumière nous permet de changer l'atmosphère, de changer l'angle de vue, et aussi d'articuler différemment le spectacle.
Bon, mais ça nous laisse des tas de choses intéressantes à imaginer. Juste, le trac, vous connaissez ? Comment vous êtes ? J'aime bien poser cette question aux différents metteurs en scène parce qu'on a tout un tas de réponses, alors la vôtre.
C'est-à-dire que le track, moi, à la différence des chanteurs et des acteurs, je ne suis pas sur le plateau au moment où le rideau se lève. Mais il y a bien sûr le doute du travail que nous avons fait. Est-ce que je suis dans la bonne direction? Est-ce que je ne suis pas? Est-ce que ma vision, mon regard, est-ce que j'ai réussi à transmettre ma vision et mon regard? C'est déjà, d'abord, est-ce que ma vision, j'ai réussi à la transmettre? C'est la première chose. Après, si cela plaît ou ne plaît pas, est-ce qu'elle fait sens? Est-ce qu'elle a... Pour moi, l'idée de... Je n'ai pas à dire quelque chose sur une œuvre. Je pense pas que...
Vous l'éclairez d'une façon différente.
Pour moi, le rôle d'un metteur en scène, c'est le rôle du théâtre. C'est que dans le théâtre, c'est un lieu où dans... Un lieu public, dans un même espace, il y a des gens qui vont venir regarder, d'autres qui vont être regardés. Et on retrouve à travers le théâtre ce vieux mythe, enfin, cette fonction presque religieuse des communautés qui se retrouvaient. Enfin, c'est la base du théâtre antique. Hein, c'est une cérémonie expiatoire, c'est une espèce de transe collective qui va nous permettre de continuer à vivre dans la cité, dans la vie. Et donc, moi, la seule chose que j'espère que mon travail puisse transmettre, c'est qu'effectivement, quand les spectateurs rentrent dans la salle, ils vont vivre les émotions de l'œuvre. Je vais essayer de leur faire comprendre le sens de l'œuvre, les aider à écouter. Souvent pour moi il y a une mise en scène, il y a beaucoup trop de choses sur scène, ce qui fait qu'on est trop sollicité visuellement et on n'arrive pas à entendre. Donc pour moi le texte avant tout c'est la partition, c'est-à-dire ce mélange d'un texte littéraire et d'un texte musical. Donc comment moi en tant que metteur en scène, je vais guider, comme je reviens au cinéma, je vais mettre le focus sur tel personnage, aider le spectateur à voir là où il faut regarder, où c'est important. Et lui faire vivre toutes les émotions de l'œuvre, à travers la musique, à travers le jeu, à travers le texte, et qu'il soit transformé. Mais toujours garder le mystère, parce que c'est la plus belle chose du monde, le mystère. Quand on est traversé par une émotion, on ne sait pas vraiment si c'est de la tristesse, de la joie, de l'espoir. Mais on est traversé par quelque chose de ne jamais définir complètement un sentiment, une idée, mais de laisser le spectateur vibrer avec sa propre personnalité, et que quand il en sort, c'est comme un voyage.
Mais alors le trac chez vous, ça veut dire que le matin, vous n'avez pas envie d'y aller, vous avez envie de tout casser, vous avez envie de rester dans un trou, comment ça se passe pratiquement, en pratique, vraiment? Des fois, il ne peut rien y avoir. Moi, j'ai eu des musiciens qui m'ont dit, un coup sur deux, il n'y a pas de trac.
Non mais je vous dis, moi c'est différent parce que je suis caché dans l'ombre. Je ne sais pas, comme le chanteur ou l'acteur, où tout d'un coup le rideau se lève, il est en pleine lumière et il y a tout ce public dans l'ombre qui l'attend. Dès que le rideau se lève, je suis pleinement dans le spectacle. Je suis aussi spectateur. Toujours metteur en scène, parce que jusqu'à la dernière représentation, le travail n'est pas terminé. On peut, par des notes, resserrer le jeu, modifier, aller plus loin, donc avec la distance des représentations. Mais j'avoue que oui, j'essaie aussi de vivre ce voyage que les spectateurs vont vivre. Mais c'est juste quand la salle se baisse, voilà, c'est ce moment d'angoisse, quoi.
Et il y est toutes les fois, il n'y a pas de doute.
Oui, toutes les fois, bien sûr. Vous savez, à chaque coup qu'on remet qu'une nouvelle œuvre commence, c'est une nouvelle histoire qui commence, un nouveau thème, un nouveau challenge, une nouvelle expérimentation. Donc c'est à la fois excitant, mais bon, la peur fait partie de l'excitation aussi. Hein.
Oui, bah. Et vous, Corré Jolande, merci beaucoup, à bientôt.
Merci à vous.
Voilà, vous venez donc d'écouter un extrait de plus de cet Idoménée enregistré par René Jacobs pour la firme Harmonia Mundi qui date de 2009. Alors avant de terminer cette émission, eh bien je rappelle que vous pourrez voir cet Idoménée Roi de Crète à l'Opéra Comédie à Montpellier pour la dernière fois le jeudi 8 janvier. Voilà. Alors donc la mise en scène, comme on vient de voir, c'est Jean-Yves Corrège-Long qui nous a longuement expliqué de quoi il en retournait. Le chef est Sébastien Roulant. Les décors sont de Mathieu Laurie Dupuis, les costumes de Yashi et les lumières de Jean Torres. Alors au point de vue chanteur, nous avons Brendan Thuoyé qui est Idoménée, Marion Tassou qui est Ilia, la fille du roi Priam, qui est le roi de Troie donc, Anna Manske qui est Idamante, le fils d'Idoménée, Clémence Tilquin qui est Electra, la fille d'Agamemnon, donc, et Antonio Figueroa, qui est Arbace, le confident d'Idoménée. Donc voilà, tout ce petit monde, vous pouvez encore le retrouver pour une dernière fois. Alors avant de nous quitter, eh bien, je vous propose d'écouter un dernier air d'Electra, ça s'appelle, de Ilia, pardon, Zeffiretti, c'est un extrait de l'acte 3 de cet Idoménée de Mozart. Et voilà, vous étiez bien sur FM+, c'était bien votre émission Chacona. Je remercie Manuel à la technique. Vous étiez donc sur FM+, 91 à Montpellier, 103.1 à Nîmes, Alliance+. Nous nous retrouverons la semaine prochaine. La semaine prochaine, nous aurons à nouveau une invitée, ça sera Eve-Marie Signerol, qui nous parlera d'un projet que l'on verra au mois de juin à Montpellier avec des enfants d'école. Et elle nous parlera de ce projet. Nous suivrons le montage, l'évolution de ce projet au moins deux fois. Voilà, je vous remercie et je vous dis à bientôt. Bye bye! Thank you.